à prendre garde donc à ce rapport entre cosmologie et périodologie. Nous traiterons dans notre dernier cours, la semaine prochaine, de l'anthropologie, c'est-à-dire de la doctrine de l'homme. Mais quand on parle de cosmologie ou de téréologie, c'est en liaison avec l'anthropologie. Pourquoi ? Parce que l'homme, tout à la fois, est dans le cosmos, fait partie du cosmos, et cependant, il a été placé par Dieu au-dessus du cosmos. Donc il y a là une particularité de l'homme, c'est que, dans un certain aspect, il fait partie de l'ensemble de l'univers créé, et sous un autre aspect, il domine l'univers créé. Vous savez qu'on a souvent considéré, et à bon droit, les premiers chapitres de la Genèse, parce que ces premiers chapitres de la Genèse sont une clé, constituent une clé pour notre compréhension de nous-mêmes et notre compréhension du monde. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir que, au départ, dès sa création, l'être humain est appelé à être le gérant personnel du Dieu personnel qu'il a créé. L'homme est à l'image de Dieu, il doit servir la gloire de Dieu, et il reçoit de Dieu ce qu'on peut appeler le commandement culturel. Ce commandement culturel nous est donné dans l'ensemble des chapitres 1 et 2 de la Genèse, et particulièrement Genèse 1, 28 à 30, et Genèse 2, 15, 16 et 19, 20. Donc au chapitre 1, les versets 28 à 30, au chapitre 2, les versets 15, 16 et 19 à 20. Et ce commandement culturel, il faut le noter, est réitéré et repris après la chute. Vous vérifierez, vous verrez en Genèse 3, 15, 19, et en Genèse 9, 1, 7. Je répète, Genèse 3, 15, 19, et Genèse 9, 1, 7. Alors, il y a trois verbes qui sont marqués pour cerner, pour décrire le commandement culturel. Ces quatre verbes sont cultiver, garder, manger et nommer. Ce serait une grande erreur de croire que le récit de la Genèse, comme d'aucuns ont voulu le lire, serait un récit naïf ou la conjugaison de deux récits naïfs. S'il y a au monde un texte qui n'est pas naïf, c'est précisément le début de la Genèse. Au contraire, c'est un récit qui, sous une forme très simple, est singulièrement profond. L'homme est appelé par Dieu, c'est la première paire, si je puis dire, à cultiver et à garder le jardin. C'est-à-dire à cultiver et à garder ce que Dieu a placé sous sa domination. Parce qu'au fond, le verbe qui réunit ces quatre verbes, c'est le verbe « dominer ». Au reste, vous savez que le mot culture est un mot, dans la langue française du moins, extrêmement prégnant de sens. On parle aussi bien de l'agriculture que l'on parle de la culture au sens civilisateur du mot. Et au fond, l'homme est appelé par Dieu à développer la culture à tous les sens du terme. On pourrait dire dans tous les niveaux où cette culture se situe. Au fond, quand le paysan trace son sillon sur la terre, que ce soit avec l'antique pièce de bois, que ce soit ensuite avec la charrue, que ce soit aujourd'hui avec des moyens mécaniques, en réalité, il développe la culture au sens large, au niveau le plus terre-à-terre, c'est le cas de le dire. Mais c'est déjà de la civilisation, c'est déjà de la culture. Et donc, il faut bien voir que quand Dieu donne à l'homme l'ordre de cultiver le jardin, il y a là un sens premier, évident, terre-à-terre, comme je viens de dire, mais il y a avec ce sens terre-à-terre tous les autres niveaux, tous les sens qui viennent se superposer. Deuxième verbe, le verbe garder. Dieu ordonne à l'homme de garder ce qu'il lui a confié. Vous savez qu'il est très à la mode depuis une vingtaine d'années, du moins, depuis deux décennies donc, de parler d'écologie. Mais au fond, l'ordre que Dieu donne à l'homme dans la Genèse, c'est, pourrait-on dire, en langage contemporain, un ordre écologiste. Dieu confie à l'homme les domaines de la vie terrestre pour qu'il cultive ce que Dieu lui a confié, mais pour qu'il garde, pour qu'il veille sur ce que Dieu lui a confié. L'homme est appelé à faire attention l'univers lui est confié pour le développement culturel, l'univers lui est confié aussi pour que l'homme veille à ne pas abîmer, à ne pas gâcher, à ne pas souiller, à ne pas détruire, à ne pas abîmer ce que Dieu lui a confié. Donc comme l'ordre de garder est un ordre se trouve dès le départ de l'histoire de l'humanité, et hélas, vous le savez, l'homme est bien souvent loin et de développer la culture à la gloire de Dieu et de garder aussi tout le champ offert à l'homme comme l'homme le devrait. Le troisième terme, c'est que l'homme est appelé à manger des fruits, ou plus exactement, si l'on prend l'hébreu, à manger des arbres, de tous les arbres du jardin. Il n'y a pas l'expression « manger les fruits des arbres », mais « manger les arbres du jardin ». Et là aussi, bien sûr, il y a le sens, non pas terre à terre, mais le sens, c'est-à-dire indispensable au point de vue biologique, l'homme doit se nourrir de la terre que Dieu lui a confiée, l'homme doit se nourrir pour sa vie temporelle, l'homme doit manger des arbres du jardin, mais attention, là aussi, c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Et j'attire votre attention dans votre réflexion à bien voir que quand Dieu ordonne à l'homme de manger de tous les arbres du jardin, ça veut dire qu'il n'est pas un domaine, il n'est pas une science, il n'est pas un art dans lequel l'homme n'est à goûter et à manger. Toutes les possibilités scientifiques et artistiques sont données à l'homme. L'homme peut manger de tous les arbres du jardin, c'est-à-dire aussi bien qu'il peut manger des arbres
que vous voulez, les fruits de la terre, pour se nourrir, mais il doit aussi goûter, manger tous les arbres que Dieu offre à sa recherche et offre à son développement. Donc vous voyez que là aussi, le verbe manger est à prendre en un sens, avec plusieurs sens superposés, mais qui vont ensemble finalement. Il n'y a qu'un arbre auquel Dieu interdit à l'homme de toucher, c'est l'arbre de la science du bien et du mal, c'est-à-dire que de toute façon, ce n'est pas l'homme qui peut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est injuste, c'est la parole de Dieu qui lui définit ce qui lui est permis et ce qui lui est défendu. Donc, vous avez ce sens très plein du verbe manger, et enfin le quatrième verbe employé dans la Genèse, c'est le verbe nommer. Là aussi, nommer, selon la Sainte Écriture, cela ne signifie pas coller une étiquette sur les choses. Non, nommer, donner un nom, c'est rechercher et découvrir l'essence des choses. C'est les définir de mieux en mieux et de plus en plus. Et au fond, prenez par exemple la recherche scientifique, mais on pourrait en dire autant de la recherche esthétique. Dans la recherche scientifique, qu'est-ce que font les savants? Les savants sont des gars qui, au long des siècles, viennent décrire, définir, avec de plus en plus de précision, l'univers et ce qui se trouve dans l'univers. La recherche scientifique, au fond, c'est une recherche de nomination, c'est une recherche de définition, c'est une recherche de description. Au fond, on nomme avec de plus en plus de précision. Je me souviens, ayant un entretien un jour avec de jeunes polytechniciens, on essayait de parler de cela, et au fond, ils me disaient, et je crois que c'est très juste, au fond, la science n'explique rien, mais la science décrit de mieux en mieux. Évidemment, ça n'explique rien parce qu'on ne fait que reculer de plus en plus dans le domaine des causes. On sait pourquoi telle chose a lieu. Eh bien parce que telle chose a lieu avant. Et pourquoi telle chose a lieu avant? Parce que telle autre chose arrive encore avant, et ainsi de suite. Mais au fond, l'explication au sens le plus métaphysique, l'explication au sens le plus ontologique, on ne la donne pas. La science n'explique pas, ou alors il faut entendre le mot explication dans ce sens que, en déroulant les causes, en précisant les causes, en les définissant, en les décrivant de mieux en mieux, c'est une explication au sens où le verbe expliquer signifie justement développer. Si vous voulez, on pourrait presque dire qu'est-ce que c'est qu'une explication? Eh bien, vous avez un ensemble, et puis alors petit à petit, cet ensemble, vous l'expliquez, vous le développez. Cela s'étend de plus en plus. Donc il y a une description de plus en plus grande, une nomination de plus en plus grande. Alors vous comprenez bien, c'est pour vous montrer, ces verbes, le verbe qui englobe les eaux, dominer, et les quatre verbes, cultiver, garder, manger, nommer, sont, je le répète, des verbes prégnants de sens. Ce sont des... Rien n'est moins naïf que ça. Rien n'est plus profond. Disons que c'est apparemment naïf. De même que dans la Bible, il y a d'apparentes contradictions, eh bien, dans la Bible, il y a d'apparentes naïvetés. Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Et il n'y a pas de naïveté. Les contradictions ne sont qu'apparentes, et la naïveté n'est qu'apparente. Et au contraire, quand on scrute le texte de l'Écriture, selon l'ordre de Jésus, il n'a pas divisé les Écritures. Il a dit « sonder les Écritures ». C'est pas lire, simplement, comme ça. C'est les lire en profondeur, c'est les sonder. Alors quand on sonde ces verbes, on s'aperçoit de tout le sens qu'ils ont. Alors, je laisse de côté, je ne peux pas vous en parler en dogmatique avec Paul Wells l'année prochaine, dans deux ans, Je ne parlerai pas de l'uranologie ni de l'angélologie, je voudrais revoir, m'en rester à la cosmologie. La cosmologie qui est donc l'étude du monde qui nous est accessible. Et en particulier la terriologie nous est particulièrement accessible puisqu'il s'agit du domaine minéral, du domaine végétal et du domaine animal qui sont des domaines subhumains. Alors là, il faut faire très attention quand nous avons à parler du ciel et de la terre. Là, c'est une question de vocabulaire, mais comme vous venez de le voir à propos des verbes dont je viens de parler, le vocabulaire, c'est essentiel. Quand nous disons que Dieu, notre Père, est aux cieux, quand nous disons que depuis l'Ascension, notre Seigneur Jésus-Christ, en sa nature humaine, et donc aussi corporelle, glorifiée, est au ciel, quand nous parlons des anges du ciel, nous ne parlons pas, et la Bible ne parle pas, à la manière spatiale, moderne, en usage depuis Newton. Vous connaissez tous, je pense, le nom d'Isaac Newton, qui a été l'inventeur de la gravitation universelle, on n'a plus entendu parler de l'atome, de Newton, je ne sais pas si c'est par ici vraiment historique, mais en tout cas Isaac Newton, qui vivait, vous le savez, au XVIIe siècle, après il est mort au début du XVIIIe siècle, Newton nous a donné une idée spatiale du monde. Et cette idée spatiale est tout à fait, non seulement valable, mais nécessaire, indispensable. Mais le ciel, dans la Bible, peut désigner le ciel où se trouvent les étoiles, le ciel même d'une façon plus rapprochée où volent les oiseaux, d'ailleurs où se trouvent les nuages. Bon, il y a le ciel, c'est là où les cosmonautes vont se balader sans doute de plus en plus dans les années qui viennent. Bon, ça c'est le ciel spatial. Mais quand nous disons notre Père qui est aux cieux, nous parlons de ce qui est inaccessible à l'homme. Autrement dit, le ciel où Dieu habite n'est pas un lieu de notre espace accessible, puisque d'ailleurs la parole de Dieu nous dit que Dieu remplit les cieux et la terre. Non, il faut bien voir que le ciel désigne non seulement l'espace céleste, où se trouvent les étoiles, de façon plus rapprochée les nuages et les oiseaux, mais désigne une partie de l'univers qui nous est inaccessible. Ce n'est pas un espace, c'est quelque chose qui est au-delà de notre espace. Et vous savez que aujourd'hui, les recherches scientifiques amènent à voir que les choses sont beaucoup plus compliquées que nous ne le donnent à penser les apparences. Et vous savez qu'on découvre de plus en plus des mystères qui confinent aussi bien avec les fameux trous noirs qu'avec, je dirais, tous les problèmes que pose la lumière et, je dirais, la vitesse de la lumière. Au fond, la Bible nous dit attention, attention. La création comprend ce qui nous est accessible et puis le ciel qui nous est inaccessible. Touchons encore un petit mot rapide. Vous savez que Rudolf Bultmann, dont vous entendrez parler, dont vous avez peut-être entendu parler déjà dans vos cours du Nouveau Testament. Alors Rudolf Bultmann, qui est un théologien récent, mais qui est mort aujourd'hui, excusez-moi, le deuxième. Rudolf Bultmann parle souvent du monde à trois étages. Et alors, il a même une phrase assez curieuse. À un moment donné, il dit « On ne peut pas comprendre comment, à l'heure de l'électricité, de la télévision, eh bien, on peut croire, comme la Bible nous le présente, à un monde à trois étages. Trois étages étant les eaux, la terre et le ciel. Mais il faut répondre sur ce point à ce qu'affirme Bultmann. Parce que Bultmann oublie deux choses quand il dit ça. D'abord, comme la Bible nous dit à plusieurs reprises, on lui fait des questions dans la Sainte Écriture du ciel, de la terre et des eaux plus basses que la terre. Et alors, Bultmann, d'abord, oublie une chose élémentaire, c'est que la Bible nous parle là, selon les apparences sensibles. En effet, le ciel est au-dessus. Le ciel est au-dessus. La terre est en dessous du ciel, et les eaux sont en dessous de la terre. Attention, il ne faut pas croire que ça veut dire que il y a les eaux en bas, la terre par-dessus et le ciel par-dessus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire exactement ce que nous voyons ordinairement. Nous savons très bien que la terre, c'est la partie immergée au-dessus des eaux. C'est la partie émergée au-dessus des eaux. Hein? Et le ciel, bien sûr, est au-dessus de la terre. Et au fond, tout ce que la Bible dit quand elle parle du ciel, de la terre et des eaux plus basses que la terre, vous savez que c'est dans le second commandement. Tu ne te feras aucune représentation des choses qui sont là-haut dans le ciel, ici-bas, sur la terre ou dans les eaux plus basses que la terre. Ça ne veut pas dire qu'il y a des eaux sous la terre. Mais ça veut dire que les eaux sont plus basses que la terre émergée. Un point, c'est tout. Donc, quand Bultmann semble vouloir ridiculiser l'affirmation du second commandement, je dirais que c'est un pétard mouillé. C'est évident que l'univers, où que nous nous trouvions sur la Terre, que nous nous trouvions dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, que nous nous trouvions dans l'ancien ou dans le nouveau continent, eh bien on a toujours le ciel, la Terre sous le ciel, et les eaux qui sont plus basses que la Terre, puisque ce que nous appelons la Terre, c'est ce qui émerge au-dessus des eaux. Donc, c'est une des premières raisons, l'Écriture s'exprime en un langage selon les apparences sensibles, selon ce qui apparaît au sens des hommes, et nous devons faire cette première observation à Bultmann. Mais il y a une seconde observation que nous pouvons faire à Bultmann, c'est que dans la Bible, le mot ciel, est un mot particulièrement délicat à manier. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ciel peut aussi bien désigner l'espace qui est au-dessus de nous, j'allais dire l'espace au sens newtonien du mot, mais le ciel peut désigner aussi ce qui nous est inaccessible. Par exemple, notre Père qui est aux cieux ne situe pas Dieu quelque part dans l'espace céleste. Mais cela veut dire qu'il y a la transcendance de Dieu et que nous ne pouvons pas pénétrer le ciel de Dieu, parce que le ciel de Dieu, le ciel de notre Père qui est aux cieux, eh bien, ce ciel-là, c'est un ciel qui n'est pas spatial. C'est un mot, donc, qui désigne une réalité transcendante. Voilà la seconde réflexion que l'on peut faire à Bultmann. Mais je dirais, il faut faire encore une remarque importante. C'est que dans la Bible, il y a aussi, c'est un langage, c'est un genre littéraire, il y a aussi de la poésie. De la poésie. Et en particulier, vous savez que les psaumes en particulier le psaume 148, mais il y en a d'autres, les psaumes nous donnent une description de l'univers qui est poétique. C'est poétique. Vous savez que, par exemple, un poète moderne, je ne me souviens plus lequel, peu importe, a parlé de la musique des sphères. Il a dit qu'il fallait entendre la musique des sphères. Parce qu'en langage poétique, ça ne veut pas du tout dire que ce poète imagine l'univers comme un ensemble de sphères mystérieuses et qu'il y aurait une musique au sens technique du mot qui se ferait entendre. Nous, ça veut dire que lorsque nous contemplons l'univers avec ses distinctions, ses variétés, tout ça, eh bien, il y a une harmonie qui se dégage tout ça. Alors, au lieu de parler de l'harmonie universelle, l'harmonie universelle, qui est aussi une image, eh bien, ce poète parle de la musique des sphères. Bon. Eh bien, de même, vous avez dans la Bible, lorsque c'est de la poésie, comme dans les psaumes, vous avez non plus un langage selon des apparences sensibles, comme par exemple dans le second commandement, parlant des cieux, de la terre et des eaux plus basses que la terre, mais vous avez à ce moment-là une sorte le langage, si vous voulez, est élevé à un degré où peut jouer notre imagination. Et au lieu d'être un langage qui décrit les apparences sensibles, c'est un langage qui veut nous donner à saisir quelque chose qui peut entraîner et en même temps exalter notre imagination. Et c'est un autre langage. Si vous voulez, la même chose dite par un historien en prose et célébrée par un poète en vers, ce ne sera pas du tout le même langage. Ce ne sera pas du tout le même langage. Vous savez que lorsque Victor Hugo, dans un texte célèbre que vous connaissez sans doute tous par cœur, décrit la bataille de Waterloo, je pense que vous connaissez tous ce poème, qui est un des plus beaux poèmes de Victor Hugo, eh bien, il décrit la bataille tout autrement que ne la décrirait un témoin de la bataille qui voudrait nous donner un récit historique. Pas le récit poétique donné par Victor Hugo est vrai dans son genre poétique, de même que le récit donné par un historien pourrait être vrai dans un sens historique. Il y a une vérité historique qui est différente de la vérité poétique. Et souvent, la vérité poétique nous permet de saisir quelque chose que le langage historique ne suffirait pas à nous faire saisir. C'est magnifique, quelquefois, de voir Victor Hugo nous décrire justement cette bataille de Waterloo. Il parle là d'une urne trop pleine, où tout bidonne, où tout chagrine. Victor Hugo sait très bien que ce n'est pas vrai historiquement, mais c'est vrai poétiquement, et même c'est en saisissant cette vérité poétique qu'on peut mieux comprendre l'événement. Alors il faut faire très attention. Bultmann oublie au fond trois choses. Il oublie, lorsqu'il se moque, soi-disant, d'un monde à trois étages que nous décrirait la Bible, il oublie d'abord que, selon les apparences sensibles, il y a bien les trois étages dont parle la Bible. Il oublie d'autre part que souvent la Bible, dans les psaumes en particulier, parle en langage poétique. Et puis d'autre part, il oublie que le mot ciel, par exemple, peut désigner aussi bien l'espace céleste qui est au-dessus de la terre que la demeure transcendante de Dieu et d'un Dieu qui peuple les cieux et la terre. Si bien qu'on voit bien que si l'on rapproche les choses, quand il nous dit que Dieu est au ciel, et d'autre part quand il nous dit que Dieu habite les cieux et la terre, eh bien nous avons à comprendre les choses autrement que selon un langage qui serait justement un langage scientifique, un langage absolument rationnel, pour ne pas dire rationnel. Alors, j'ai dit que je sautais la question des anges, la partie de l'angélologie que vous étudierez en dogmatique. Cependant, ici, je fais une petite remarque. C'est que quand la Genèse nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », nous nous trouvons là devant une question exégétique très importante qui est la suivante. Est-ce que cela veut dire seulement que Dieu a créé les cieux peuplés par les étoiles et la terre? Ou est-ce que cela veut dire que Dieu a créé le monde invisible des anges et le monde visible? Et le monde visible, les cieux, là, étant mis pour désigner le monde invisible, et la terre étant désignée pour l'homme, croissant. Les cieux pouvaient désigner là aussi le monde invisible. Donc il faut faire là aussi très attention. Moi, ce que je reproche personnellement à Lippmann, c'est d'être un rationaliste et même un rationaliste sec. Il y a même des rationalistes qui ne sont pas secs comme les Bultmann. On dirait que Bultmann voudrait toujours n'employer les mots que dans un sens. Et le monde visible, les cieux, là, étant mis pour désigner le monde invisible, et la terre étant désignée pour l'homme croissant. Les cieux pouvaient désigner là aussi le monde invisible. Donc il faut faire là aussi très attention. Moi, ce que je reproche personnellement à Lippmann, c'est d'être un rationaliste et même un rationaliste sec. Il y a même des rationalistes qui ne sont pas secs comme les Bultmann. On dirait que Bultmann voudrait toujours n'employer les mots que dans un sens aplati, que dans un sens... Je me souviens, j'avais un ami dans ma jeunesse, c'était un personnage très singulier. Il s'appelait Valentin de Paris. C'était un russe, et c'était un type assez extraordinaire. Moi, je l'ai connu parce qu'il a fait une partie de ses études avec moi. Et c'était un type qui, à l'âge de 15 ans, il avait 15 ans en 1919, vous voyez, et ayant 15 ans à cette époque, c'était l'époque de la révolution russe, il avait été un temps engagé parmi les cosaques de Wrangel. Wrangel, vous savez, était un général, un russe blanc, un général qui avait essayé de lutter contre les bolcheviks. Et à 15 ans, donc, il avait été cosaque, ce Valentin de Paris. Et un jour, d'ailleurs, il m'avait montré, comme on était assez copains, il m'avait montré qu'il avait le dos et la poitrine couverts de cicatrices des coups d'épée qu'il avait reçus. Il avait reçu au cours de combat, et de coups d'épée, il avait le dos et le banc. Et alors, il s'était réfugié en France, après la débâcle des armées vendelles, je crois que c'est vers 1919 ou 20, que l'armée de Wrangel a été défaite et alors a dû réembarquer en Odessa et tout ça. Il avait débarqué en France et puis alors il avait eu une vocation. Et alors, j'ai jamais d'ailleurs bien su pourquoi au départ, il avait voulu faire un peu de théologie, la faculté de théologie de Paris, la faculté de théologie protestante de Paris. Et puis alors ensuite, il était devenu pote orthodoxe, il a fait des études pour devenir pote, vous allez dire orthodoxe, d'ailleurs c'est normal, il n'était pas protestant, il était orthodoxe. Mais on était restés liés, on s'était connus à la faculté de théologie de Paris, et on était restés copains. Et là, c'était un type extraordinaire, comme sont quelquefois, vous savez, les Russes, les orthodoxes, c'est un type extraordinaire. Et alors, avec lui, ce qui était amusant, avec l'ancien pape, c'est que, comme il n'était pas orthodoxe, cette époque garde la robe. Encore aujourd'hui, ils ont la robe, même les prêtres catholiques romains n'ont plus la robe, mais les prêtres orthodoxes ont gardé la robe. Et alors, lui, on se demandait toujours, enfin, ses copains, on se demandait toujours avec quelle robe on allait voir arriver. Quelle fois c'est une robe rouge, quelle fois c'est une robe verte, quelle fois c'est une robe violette, quelle fois c'est une robe blanche. Alors, c'était un petit peu, vous voyez, un peu extraordinaire. Mais un jour, il m'avait, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire, un jour, il m'a eu une réflexion extrêmement.
Mais vous savez, il y a deux espèces de chrétiens. Il y a les chrétiens qui regardent la Bible comme si c'était une étagère. C'est-à-dire que quand ils lisent la Bible, ils la lisent au niveau le plus plat. Tandis que pour moi, moi je fais partie des autres chrétiens, pour nous, la Bible, c'est pas une galette sèche. Mais pour moi, c'est un gâteau feuilleté, avec beaucoup de couches et beaucoup de crème. Et il me dit, c'est bien meilleur. Alors, je me rassure, après ces petites histoires, tout au long de ma vie, ça se passait, hein, il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans, on s'est vu. Et alors, ça m'est toujours resté, ça. Et vous voyez, il y a ceux qui lisent ces verbes de la Genèse, comme si c'était une galette, à plat. Et puis ceux qui voient que chacun de ces verbes est susceptible de couches de sens différentes. Et ce sont, et alors, je me suis toujours rappelé la réflexion de Valentin de Marc. Je me suis dit, mais c'est vrai, il faut faire attention. Alors je reproche à Bultmann, je reviens à Bultmann, au fond Bultmann est le type même du chrétien galette. Avec Bultmann, c'est toujours tout aplati, il ne veut pas voir les profondeurs de sens. C'est pas une histoire. Attention, hein, il ne s'agit pas de dire dans la Bible des sens ésotériques ou des sens que nous allons y inventer. Non, mais il faut voir que les mots bibliques sont des mots quelquefois bien difficiles à définir. Je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Regardez, prenez chacun de ces verbes. On peut le lire d'une manière très plate. Or, le mot ciel, c'est pareil. Le mot ciel. Pour le Goodman, c'est très clair, c'est très simple. Le mot ciel, ça signifie simplement l'espace newtonien. L'espace là où se trouvent les étoiles, tout ça. Tandis qu'en réalité, le mot ciel est un mot beaucoup plus mystérieux que ça dans les écritures. Il désigne bien cet espace. Il désigne bien cet espace. Mais il ne désigne pas le sens. De même, par exemple, une chose qui fait toujours quitter Bultmann, c'est quand il dit, oh, vous voyez, la Genèse parle, d'ailleurs ça pourrait se discuter, on pourrait être vu de l'hébreu, ça vous en demanderait quelque chose à notre ami Jean-Marc Thomas. Mais, par exemple, on traduit des fois la vie du Seigneur. Alors, Bultmann dit, vous voyez, faut-il être naïf et bête pour s'imaginer que le ciel c'est une voûte et puis que sur cette voûte il y a des étoiles. Mais c'est une manière très aplatie de voir les choses. Parce que pour nos deux, c'est vrai que le ciel peut être comparé à une voûte sur laquelle sont clouées les étoiles. Voilà, bien sûr, il faut. Nous savons que ce n'est pas ça, mais pour nos yeux, quand nous regardons le ciel, je ne sais pas si vous êtes amusé, moi depuis le temps que j'ai été éclaireur, moi j'aime bien le soir, je me couche là sur l'herbe, et puis je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, on finit par avoir le vertige presque, on finit par être vertige, si on regarde les étoiles par une belle nuit d'été. Hein, bon, alors, je pense à Victor Hugo. C'est dans Beaux endormis, quand il parle de la lune, cette faucille d'or dans le champ des étoiles. C'est vrai qu'on peut parler de la nuit, d'une faucille d'or dans le champ des étoiles. C'est un langage poétique, mais c'est un langage poétique qui exprime une vérité. Donc, vous voyez, Bultmann, c'est un aplatisseur. Bultmann, c'est l'homme galère, qui réduit tout à une chose. Alors, je vous invite à essayer de vous rappeler, plus tard, là, vous essayez de vous rappeler ce que je vous ai dit au sujet de Valentin de Bache, à savoir, attention. N'oublions pas que souvent, il y a une superposition de sens, il y a une accumulation de sens. Et il faut respecter cela. Et d'ailleurs, moi, je crois que c'est ce que Jésus a voulu signifier quand il disait « sonder les Écritures ». On ne peut pas sonder une galette. Il n'y a rien à sonder, c'est tout plat. Faire tomber les Écritures, ça n'a de sens que si justement on peut rentrer dans la Bible en quelque sorte en profondeur et voir en profondeur ce qu'elle dit et distinguer même quelquefois des sens superposés qui s'accordent d'ailleurs analogiquement les uns aux autres. Parce que c'est ça, ça s'accorde analogiquement. C'est-à-dire ce, oui, à propos de garder, de cultiver, c'est des sens qui vont ensemble. C'est la, le même début de la Genèse qui nous permet de bien distinguer entre le règne animal qui étudie la zoologie, le règne végétal qui étudie la botanique et le règne qui étudie l'inorganique. Ces trois règnes constituent ensemble, selon le schéma que vous donnez, ce que j'appelle la teriologie. La teriologie, c'est-à-dire l'ensemble du monde subhumain, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers que l'homme domine. L'homme domine. Vous vous souvenez évidemment de la fameuse phrase de Pascal, qui est aussi une image, bien sûr. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Hein? Ben oui, c'est vrai. L'homme, si vous voulez, est peu de choses dans l'univers. Et cependant, il est au-dessus de l'univers. Parce que tout le monde végétal, inorganique et animal, et sous les pieds de l'homme. L'homme domine tout cela. Bien sûr, c'est ce que nous enseigne aussi Romains 8, les versets 18 et suivants, nous avons affaire à une création déchue, ou comme dit Romains 8, une création vouée à la vanité. Pourquoi ? Parce que l'homme, qui est le dominateur et le gardien de la création, est tombé dans le péché, dans la révolte contre Dieu, et que, à cause de cela, comme dit saint Paul, la création subhumaine tout entière a été soumise à la vanité. Et Paul ajoute, elle soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le sol porte une malédiction. Il produit des chardons et des broussailles. Ça, c'est dans Genèse 3, versets 17 et 18. Et Paul termine en disant que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu avec l'espérance d'être libéré de la servitude de la corruption. Vous lirez tout ça dans Romains 8, les versets 18 et suivants. Alors, nous avons donc à bien voir, vous savez que... La création se dit ktisis en grec, d'où l'expression employée de ktisiologie. Bon. Alors, il y a cet univers qui avait été confié à la garde de l'homme, mais l'homme, s'étant révolté contre Dieu, a entraîné cette ktisis vers la vanité. Mais il y a une espérance, c'est qu'un jour, cette création subhumaine participera à la gloire qui sera la gloire des enfants de Dieu. Il y a quelque chose de très beau quand on pense à tout cela. Et voyez-vous, l'homme gardien de la création de Dieu, l'homme gardien de la création de Dieu, et il a trahi sa mission. Et alors, du coup, la création de Dieu en est comme abîmée. Elle est soumise, Paul, à la vanité, mais elle attend et elle soupire après la révélation des fils de Dieu. Non, ceci m'amène à notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui, par amour pour nous, s'est fait homme, et il a donc à la fois assumé la nature humaine qu'il a prise au sein de la Vierge Marie lorsqu'il s'est fait homme. Mais je dirais, notre Seigneur Jésus-Christ est entré dans ce cosmos qui soupire et qui attend la révélation des fils de Dieu. Alors il faut bien voir que l'incarnation, avec tous les fruits, les conséquences et les résultats qu'elle entraîne, vise pour la gloire de Dieu non seulement au salut de l'humanité, mais par le salut de l'humanité et avec le salut de l'humanité, au salut cosmique, à ce que le Nouveau Testament appelle l'apocatastasis. L'apocatastasis. Ce qui veut dire le renouvellement de toutes choses. Et ça, voyez-vous, cela fait quelquefois une distinction, une de plus, il y en a d'autres, mais c'est une distinction entre les évangéliques en général, pris en général, et je dirais les évangéliques réformés. Pour les évangéliques en général, et ils n'ont pas tort, ils ont parfaitement raison, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Déjà là, il faut faire très attention, parce que certains évangéliques pensent que Jésus est venu sauver notre âme, tandis que nous, nous pensons que Jésus est venu sauver notre être tout entier, corps et âme, et que Jésus ne nous apporte pas seulement un salut éternel, mais qu'il veut aussi nous apporter un salut temporel. Mais il y a une autre différence. Et de toute façon, pour beaucoup d'évangéliques, Dieu est venu pour sauver les âmes des hommes ou les hommes tout entiers. N'est pas venu, ou du moins il n'en parle pas, pour sauver le cosmos, pour sauver l'univers de la vanité à laquelle il a été soumis. Or, voyez-vous, la vision biblique des choses, une vision vraiment biblique, nous montre que Jésus-Christ est venu sauver les hommes et qu'il est venu sauver, transfigurer l'univers. À la fin, il y aura, nous dit l'Écriture sainte, de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Ça ne veut pas dire, attention, un autre ciel et une autre terre. Il faut faire attention avec le mot nouveau. Vous voyez, je vous ai parlé, il y a des mots traîtres dans l'Écriture. Le mot nouveau, c'est pas du tout. Ça peut être quelque chose de vraiment nouveau. Mais c'est très souvent dans la Bible l'ancien renouvelé. Ça peut être quelque chose de vraiment nouveau. Mais c'est très souvent dans la Bible l'ancien renouvelé. Par exemple, quand il est dit qu'il y aura du nouveau ciel et une nouvelle terre, ça veut dire que le ciel et la terre seront renouvelés, seront transfigurés, seront métamorphosés. Mais ce sera toujours le même ciel et la même terre. De même, quand nos corps ressusciteront, ils seront bien entendu dans une situation que nous ne pouvons même pas concevoir aujourd'hui. Mais ce sera nos corps. Ce sera nos corps. Nous, nous ressusciterons dans nos corps. Et l'univers sera renouvelé, sera transfiguré. C'est ça, l'apocatastasis. Alors vous voyez, il faut avoir une vision, j'allais dire, du salut cosmique que Jésus-Christ est venu rapporter, et pour une raison très simple, c'est que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et Dieu veut faire rayonner sa gloire sur la terre et dans les cieux.
Une précision au niveau du corps. Lorsque on est venu trouver le Christ, on nous demandait à la résurrection s'il y aurait éventuellement
des mariages,
etc. Bon, partant de ce critère, comment est-ce qu'on peut considérer la régénération du corps?
Bon, alors là, je vous arrête tout de suite, parce que jeudi prochain, nous parlerons anthropologie, et alors donc nous aurons à voir aujourd'hui, nous en sommes à la cosmologie. Alors, vous avez une définition que donne de l'univers la philosophie réforme. Alors c'est un terme latin, l'univers. Et le théâtrum des cosmonicos.
qu'est-ce que ça veut dire que l'univers est ce théâtrum délit cosmique?
Alors, si on met ça en français, ça veut dire que l'univers est le théâtre cosmonicum, c'est un drame. C'est le sens du mot poète. Vous savez que en grec, vous avez un verbe poieo qui signifie créer. Et c'est de ce mot qu'est tiré notre mot français poète. Si bien que, si vous voulez, étymologiquement, poète égale créateur. Le poète, c'est le créateur. Et on peut dire de Dieu qu'il est le créateur du monde, mais il est aussi le poète du monde, il est l'animateur de l'univers. Eh bien, en Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu veut recréer l'univers. Alors je vous ai dit, nouveau ciel, nouvelle terre. Je prends un autre exemple. Je le tire de la première lettre de Jean. Vous savez que Jean, dans sa première lettre, dit au sujet des commandements de Dieu, c'est un commandement ancien que je vous dis. Mais il ajoute aussitôt que ce commandement ancien est un commandement nouveau. C'est assez curieux, parce qu'on pourrait dire, mais alors, c'est un commandement nouveau ou c'est un commandement ancien? Eh bien non, c'est un commandement ancien, mais c'est un commandement non seulement que l'homme avait oublié, mais c'est un commandement que l'homme était incapable d'accomplir. Et alors, notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Et notre Seigneur Jésus-Christ étant venu, voilà que le commandement ancien est vécu par Jésus, est suivi par Jésus. Jésus a accompli le commandement ancien. Et à partir de là, il peut nous donner à nous, si nous sommes en communion avec Jésus-Christ, de vivre ce commandement ancien comme si c'était un commandement nouveau. Vous me suivez? Donc, c'est vrai que le commandement ancien, en Jésus-Christ, devient un commandement nouveau. Eh bien, on peut dire la même chose de l'univers. On peut dire la même chose du cosmos. Et en cosmologie, les chrétiens doivent se souvenir de ça. Le monde est un monde ancien. Un monde ancien. Très ancien. En tout cas par rapport à nous, terriblement ancien. Et c'est un monde qui, par la faute de l'homme, a été soumis à la vanité. L'homme a gaspillé les dons de Dieu. Et l'univers est un univers souillé par le péché de l'homme. Mais voilà que Jésus-Christ est venu, et en Jésus-Christ, cet univers ancien, ce cosmos ancien, va devenir un cosmos nouveau, et finalement sera un cosmos transmis.
Alors vous voyez, c'est notre vision du monde. Ce n'est pas la vision que peut avoir un non-chrétien, ce n'est pas la vision que peut avoir un homme qui vit encore dans la révolte avec Dieu. Parce que nous voyons bien l'univers avec tout ce qui n'y va pas. Nous voyons bien l'univers avec les chardons et les broussailles qui s'y sont développés. Mais nous savons que puisque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ veut le renouvellement de cet univers. Et c'est pourquoi nous allons, avec cet univers ancien, vers de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et Jésus-Christ n'est pas seulement le sauveur des hommes, nous en parlerons un peu la prochaine fois en parlant d'anthropologie, mais il est aussi le sauveur de l'univers. Il est celui qui veut faire de l'univers soumis à la vanité un univers qui sera à nouveau le Theatrum Dei Cosmonomicum. Voilà. Alors nous aurons donc notre cours, notre dernier cours sur l'anthropologie jeudi prochain, et bien entendu jeudi prochain, sauf si survient un événement dont je ne veux pas citer, mais ce sera à l'heure habituelle, c'est-à-dire à 11h.
Mais ce qu'on appelle aujourd'hui, au sein des sciences dites humaines, l'anthropologie, n'est en réalité qu'une petite partie de l'anthropologie. Et je pense d'ailleurs que les distinctions que l'on fait aujourd'hui entre anthropologie, ethnologie, l'étude des peuples, psychologie, sociologie, histoire, tournent au fond, toutes ces sciences tournent en rond autour de la question anthropologique. Au fond, les sciences ne nous apportent, les sciences dites humaines, ne nous apportent sur l'homme qu'un certain nombre d'indications, qu'on tourne en rond sans vraiment aller au centre. Et cependant, il y a des interrogations qui se sont fait jour depuis quelque temps. C'est pour ça que je me permets de vous recommander un livre qui s'appelle « L'homme et l'invisible ». L'homme et l'invisible, qui est de Jean Servier, qui est professeur d'anthropologie à la faculté des lettres et des sciences humaines de Montpellier. Donc, ce professeur de l'université de Montpellier, Jean Servier, a écrit un livre qui est déjà assez ancien, mais il en a paru une édition toute récente en 1980 dans la petite bibliothèque Payot. La petite bibliothèque Payot, que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être pour en avoir des ouvrages, c'est au fond une collection en livres de poche de livres scientifiques. Alors je vous recommande l'acquisition de ce petit livre, L'homme et l'invisible, de Jean Servier. À mon sens, c'est en français l'un des ouvrages les plus originaux, les plus captivants des longtemps publiés. Donc, toutes les sciences humaines que j'ai énumérées, je répète, anthropologie, ethnologie, psychologie, sociologie, histoire, etc., tournent autour de la question anthropologique. Pourquoi ? Parce que l'homme échappe aux sciences humaines. L'homme échappe aux sciences humaines parce que nous ne savons vraiment ce qu'est l'homme ou qui est l'homme que par la révélation de Dieu. Au fond, c'est l'Écriture sainte qui nous découvre le plus important en anthropologie. Toutes les sciences humaines, je le répète, nous apportent des connaissances sur l'homme. Mais malgré l'accumulation de connaissances que les sciences humaines nous apportent sur l'homme, l'homme échappe à nos prises. Et il échappe à nos prises précisément parce qu'il est image de Dieu. Au fond, l'Écriture
les choses, ça s'explique tout ça. Puisque l'homme est un homme tombé. L'homme est un homme détourné de son sens d'homme. Depuis la chute, l'homme est toujours un homme, bien sûr, mais ce n'est pas l'homme tel qu'il devrait être. Et d'ailleurs, les savants eux-mêmes sont marqués par la chute. Si bien qu'au fond, les sciences humaines sont faites par des savants marqués par la chute sur un homme marqué par la chute. Pour savoir vraiment qui est l'homme, au fond, il nous faut connaître deux hommes que seule la Bible nous révèle et dont nous ne pouvons pas avoir de connaissance en dehors de la Bible. D'abord, c'est le premier Adam, Adam avant la chute. Et encore, la Bible ne dit pas grand-chose de cet Adam avant la chute. Et puis, le deuxième homme, c'est le second Adam, ou le dernier Adam, Jésus-Christ. Au fond, c'est ce que la Bible nous dit d'Adam avant la chute, et ce que la Bible nous dit de Jésus-Christ, qui peut le mieux nous éclairer sur ce qu'est l'homme. Mais cependant, il faut ajouter que même après la chute, l'homme reste homme. Nous sommes des hommes, bien que pécheurs. Nous sommes des hommes, bien que révoltés contre Dieu. Si bien que tout ce que nous pouvons apprendre aussi des hommes, par la voie de l'histoire, de la psychologie, etc., nous devons... Alors disons d'abord un mot très rapide de l'Adam avant la chute, et ensuite quelque chose au sujet de Jésus. Tout d'abord au sujet de l'Adam avant la chute. C'est l'homme normal. En ce sens qu'Adam avant la chute, c'est l'homme qui est normé par Dieu. Je veux dire par là que c'est l'homme réglé selon Dieu. Quand je dis l'homme aussi, là je parle de l'être humain, c'est-à-dire aussi bien de l'homme masculin que de l'homme féminin, aussi bien d'Adam que d'Ève. Or, cet Adam, avant la chute, c'est un homme qui vit continuellement dans la communion avec Dieu, dans un rapport intime avec Dieu. Dieu habite en l'homme. L'homme est vraiment en image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Enfin, que nous dit la Bible de l'homme avant la chute? Elle ne nous dit pas grand-chose en dehors de cela, que c'est un homme dans la communion avec Dieu, que c'est un homme qui, dans un rapport harmonieux, non seulement avec son Créateur, mais avec les créatures, et en particulier avec cet autre lui-même, os de ses os et chair de sa chair, qui est son conjoint. Donc, il y a une harmonie de l'homme avec Dieu, de l'homme avec son prochain, et de l'homme avec la création. Dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder et nommer les créatures, l'homme vit en harmonie avec la création, qu'elle soit minérale, végétale ou animale. Mais la vraie norme de la nature humaine, c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Éphésiens 4, 24, il est dit que nous sommes appelés à revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et encore, autre texte, Colossiens 3, 10, alors là, vous vous référez au texte, hein, vous n'avez qu'à noter les textes, ne notez pas le reste. Colossiens 3, 10, il faut avoir revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Si vous prenez dans votre Nouveau Testament Éphésiens 4, 24 et Colossiens 3, 10, vous y avez au fond comme un éclair, vous y recevez comme une lumière sur ce qu'est cet homme normal en image de Dieu. Si bien que jamais Pilate ne s'est rendu compte de ce qu'il disait quand, montrant Jésus-Christ au peuple juif, au moment de sa condamnation, il leur dit « Voici l'homme ». Vous voyez, en français, souvent, on répète l'expression latine de « Tout le monde connaît au moins ces deux mots latins, « Ecce homo »,« Voici l'homme ». Bien entendu, il y a une différence, quand même, entre le premier Adam, avant la chute, et Jésus. C'est que le premier Adam n'est quand même pas pleinement normal en ce sens. Non pas qu'il est anormal, mais en ce sens qu'il n'est pas normal en plénitude. Le premier Adam ne serait devenu pleinement normal que s'il avait pu continuer à manger l'arbre de vie. C'est-à-dire s'il avait pu continuer à se développer dans la communion avec Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lui, est le seul homme pleinement normal et sans péché. Je vais essayer, malgré le peu de temps dont je dispose, de développer 5 points maintenant pour décrire la nature humaine selon la révélation de Dieu. Et je dirai, pour abréger, Adam, simplement. Voilà les simples. Adam a été créé terrestre. Deux. Adam a été créé spirituel. Adam a été créé moral. 4. Adam a été créé social. Et 5. Adam a été créé culturel. Voilà les 5 points que je voudrais brièvement développer. 1. Adam a été créé terrestre. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu ça avec mon ami Jean-Marc Doma, que le mot hébreu Adam, qui désigne l'homme, est tiré du mot hébreu Adama, qui signifie l'argile rouge, on pourrait dire la glaise rouge, dont l'homme a été tiré. On pourrait aussi développer l'idée. Quand je parle de l'homme a été créé terrestre, que l'homme est poussière, il est terre, et il retournera à la terre. Au fond, c'est ça l'idée. L'homme est terrestre. Il est de la terre. Alors, quelques textes bibliques qui le rappellent, Genèse 2,7 et 3,19. Je répète, Genèse 2,7 et 3,19. Psaume 90, 3 et 103, 14. Je répète, Psaume 90, 3 et 103, 14. Et enfin, Ecclésiaste 3, 20. Ecclésiaste 3, 20. Il y a bien d'autres textes. L'homme est de la terre. Faisons bien attention. Cela distingue radicalement le point de vue de la révélation, le point de vue chrétien, du point de vue d'un certain platonisme ou d'un certain gnosticisme grec. Dire que l'homme est de la terre, ce n'est aucunement donner à l'homme un aspect méprisant. Pour les Grecs, dire que l'homme est terrestre, ce serait une mauvaise note. donné à l'homme. Mais pour la Bible, pas du tout, car la terre est bonne, la création terrestre est même très bonne. L'homme en tant que terrestre, en tant que corporel, si l'on veut, n'a rien de mauvais. Donc, quand nous disons que l'homme est terrestre, ce n'est pas pour accoler une épithète péjorative. Alors, ce n'est pas pour lui attribuer quelque chose de péjoratif. Non, il est terrestre. Dieu l'a tiré de la terre. Il y a une correspondance aussi bien entre l'homme et le minéral, entre l'homme et le végétal, entre l'homme et l'animal. L'homme est terrestre. Il a une parenté avec la terre, qui est la bonne création de Dieu. Et ça se traduit ça simplement par des choses extrêmement chimiques, si je puis dire. Vous savez très bien que c'est embêtant si l'on se décalcifie. Ben, quand on se décalcifie, il faut être recalcifié. Et notre corps est en bonne partie du calcium. De même, l'homme est en bonne partie de l'eau. On peut se déshydrater. C'est très embêtant, surtout quand un petit bébé se déshydrate. Et il faut vite les réhydrater. Et nous sommes calcium, nous sommes eau, nous sommes apparentés au règne animal. Bien des fonctions de l'homme ont leur analogie dans le règne animal. Toute la vie sexuelle, tout le mode de reproduction des êtres humains est apparenté à la vie sexuelle des mammifères et à la vie... je dirais, nous sommes apparentés au végétal, à l'animal et au minéral. Nous sommes terrestres. Mais je le répète, il n'y a là aucune notation péjorative. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que quand il est question du Christ, dans Colossiens 2:9, il nous est en Christ, habite corporellement somatico. Voilà le mot qui est employé, somatico. Or soma, vous savez, c'est le corps. Somaticos, c'est corporellement. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ était corporel, était terrestre, et il n'a pas dédaigné d'être terrestre. Bien plus, dans 1 Jean 4:2, première lettre de Jean, chapitre 4, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, en sarki, est de Dieu. Donc vous voyez que ce soit avec le mot en Christ habite corporellement toute la plénitude de la vérité, ou bien quand il est dit que Jésus-Christ est venu en chair, c'est bien montrer qu'il n'y a dans le corps, dans la chair, dans le terrestre, rien qui soit mauvais. Bien plus encore, dans 1 Corinthiens 6, 19, il nous est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la source du péché n'est pas dans le corps. Ça, les Grecs auraient pu penser que c'était dans le corps qui était la source du mal. Mais pour le chrétien, la source, selon l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché a sa source dans le cœur. Matthieu 15, 19. Et le cœur ici ne désigne pas le muscle qui sert à la diffusion du sang dans notre corps, le corps, mais le cœur, vous le savez, au sens biblique, nous l'avons déjà vu au sujet du mot hébreu lèvre. Le mot hébreu lèvre, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, lèvre désigne notre moi, notre je, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler aussi notre âme. Donc le péché vient de notre cœur, vient de notre âme, et ne vient pas de notre corps. C'est la révolte de notre personne, de notre cœur, de notre jeu, de notre moi contre Dieu, et qui est le péché. Bon, donc c'est un premier point. Nous sommes terrestres. Mais, attention, tous ces aspects se complètent. Deuxième point, Adam a été créé spirituel. Ecclésiaste 12, 7, qui utilise la Genèse, dit « La poussière retourne à la terre comme elle y était, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, il y a un aspect spirituel de l'homme comme il y a un aspect terrestre de l'homme. Et essentiellement, l'aspect spirituel de l'homme permet qu'il y ait ces attributs communicables dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Dieu est esprit, l'homme n'est pas esprit, mais l'homme est spirituel. Si vous voulez, curieusement, en tant qu'homme, nous sommes apparentés à la terre, mais on peut dire que d'une autre manière, nous sommes apparentés à Dieu. En ce sens que Dieu nous a créés à la fois comme des êtres terrestres spirituels. Adam est tiré de la terre, mais il n'est pas que tiré de la terre. Et nous devons bien voir ce point. Si vous voulez, la théologie chrétienne a aimé indiquer brièvement ces deux aspects par les mots « corps » et « âme ». D'ailleurs, je dirais que cela ne tient pas seulement de la théologie chrétienne. Cela vient déjà de l'enseignement de Jésus. Jésus dit, par exemple, ne craignez pas seulement ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Paroles de Jésus-Christ, ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui fait faire périr le corps et l'âme dans la chair. Donc, on peut dire que les mots corps et âme répondent à ça. Mais alors, je voudrais faire une petite parenthèse à ce sujet. C'est parce que quelquefois, on oppose ce qu'on appelle la dichotomie corps et âme, et ce que d'aucuns appellent la trichotomie, corps, âme, esprit. Vous avez peut-être déjà dans des rencontres entendu parler de la dichotomie qui serait, dit-on, d'origine grecque, et de la trichotomie, elle, qui serait vraiment chrétienne. D'abord, je dirais que dans la Bible, qui souligne l'unité de l'homme, ce qui est affirmé le plus généralement, c'est bel et bien et seulement la dichotomie. Je vous donne trois exemples. Matthieu 10, 28, dont je viens de parler. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça, c'est Matthieu 10, 28. C'est Jésus. Il parle du corps et de l'âme. Ou encore 1 Corinthiens 7, 34, qui, parlant de la femme, peu importe le sujet dont il s'agit, ne parle d'elle sainte de corps et d'esprit. Pas trichotomie, il y a seulement dichotomie. Ou encore 2 Corinthiens 7, 1, purifie-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit.
c'est l'étendue même de toute figure du corps et de l'esprit. Donc, disons que, contrairement à ce que certains évangéliques affirment, le Nouveau Testament ne nous indique pas une trichotomie, mais une dichotomie. Et c'est faux de dire, parler de la dichotomie corps et âme, c'est être dans le sens de la philosophie grecque, et que par contre, parler de la trichotomie corps, âme, esprit, ce serait parler d'une façon plus chrétienne. Mais il y a deux textes, pas trois, deux. Il y a deux textes dans le Nouveau Testament sur lesquels les trichotomistes, pardon, permettez-moi de les appeler ainsi, c'est pour simplifier, les insistent toujours. Le premier texte, c'est Hébreux 4, 12. Je pense que vous avez vos Nouveaux Testaments. Alors le mieux, c'est de prendre ce passage. Hébreux 4, 12. Je vous dis. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. Alors là, les trichotomistes souvent s'appuient sur ce texte en disant hey, il est question de la division de l'âme et de l'esprit. Bon, ça c'est le premier texte, et je vais y revenir. Et le deuxième texte, c'est dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 23, 1 Thessaloniciens 5, 23, qui dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Je répète, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Bon. Alors voilà les deux textes sur lesquels s'appuient les trichotomistes. Alors essayons tout simplement de revoir de près ces deux textes. Tout d'abord, Hébreux 4.12 ne dit pas du tout que l'âme peut être séparée de l'esprit ou la jointure des moelles. Le texte d'Hébreux 4.12, je le relis, la parole de Dieu est vivante et efficace, elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Or attention, il ne s'agit pas d'une division entre l'âme et l'esprit, ou d'une séparation entre les jointures et les moelles. D'abord, entre les jointures et les moelles, et c'est complètement impossible, pour la bonne raison que les jointures et les moelles ne se touchent pas. Ne se touchent pas. Mais, c'est dire, les Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux veut dire simplement, la parole de Dieu, il essaye de trouver une expression qui montre que va pénétrer jusqu'à diviser, non pas du tout, entre, on ajoute certaines versions, on va ajouter un entre, il n'est pas dans le grec, jusqu'à diviser l'âme, jusqu'à diviser l'esprit, jusqu'à diviser les jointures, jusqu'à diviser la moelle. Bon, alors, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut montrer? C'est qu'aucun aspect de la vie de l'homme, les sentiments et les pensées du cœur, est-il ajouté dans le même verset, n'est hors d'atteinte de la puissance pénétrante de la parole de Dieu. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux accumule les choses. Il dit, voyez, même notre âme est divisée par la parole de Dieu, même notre esprit est divisé, même nos jointures sont pénétrées, même notre moelle est pénétrée, même les sentiments et les pensées de notre cœur sont divisés. Donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas du tout d'une séparation entre, comme on l'ajoute quelquefois, alors que le mot entre n'est pas dans le grec, c'est pas une séparation entre l'âme et l'esprit, comme s'il y avait l'âme d'un côté et l'esprit de l'autre, ça pouvait être divisé, ou bien les jointures et les moelles, mais d'une division qui pénètre l'âme et l'esprit, et les jointures, et les moelles, et les pensées, et les sentiments du cœur. Oui. Donc,
il n'y a aucune trichotomie là-dedans. Mais 1 Thessaloniciens 5, 23, là aussi, ce n'est pas du tout une trichotomie. Parce que là, il y a simplement une accumulation. Que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, mais Paul aurait pu continuer, les pensées, les sentiments, il voulait tout dire. Alors, il accumule le procédé d'addition où on est connu, c'est ce qu'on appelle en rhétorique, un effet cumulatif. C'est un petit peu comme si, comme lorsque Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ». Alors là, hein, écoutez bien, vous allez voir à quelle bêtise on aboutit si on va dans le sens de la trichotomie. « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Hein, de toute ton âme. De toute ta pensée. Trois. De toute ta force. Quatre. » Alors ça ferait déjà, non pas une trichotomie, ça ferait une quadritomie. Mais, comme Paul ne parle pas là du corps, ça fait 5, et comme il ne parle pas non plus là de l'esprit, ça fait 6, alors on aurait même une sexotomie. Donc, pas du tout. Quand Paul veut dire qu'il faut que nous aimons Dieu de tout notre être, alors, il va de tout notre être, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, mais il faut continuer, de tout notre cœur, de tout notre corps, de tout notre esprit. Bon, il dit, il en énumère 4, il aurait pu en énumérer 6. Donc vous voyez que les seules deux têtes qui sont quelquefois évoquées pour parler de la trichotomie, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Au fond, ou bien on peut parler, comme le parle le plus souvent la Bible, du corps et de l'âme, ou du corps et de l'esprit, c'est-à-dire de l'aspect terrestre et de l'aspect spirituel, ou bien alors on peut parler, c'est une autre façon biblique de parler, du cœur. Dans 1 Pierre 3, 15, parle de l'homme caché du cœur, ou de la personne cachée du cœur. Vous pouvez vérifier dans votre grec, dans 1 Pierre 3, 4, là, dans, comment est-ce que, je ne me souviens plus, comment ça, c'est dépatrié la traduction de la colombe, 1 Pierre 3, 4, la parure cachée du cœur, c'est curieux ça, ah non, la parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. On va les compter. Si on se met à se lancer dans d'autres distinctions que la distinction fondamentale corps-âme, corps-esprit ou cœur-membre, on va être obligé de voir alors qu'il y a le cœur, et puis la parure personnelle inaltérable du cœur, hein, ou la parure cachée du cœur, ou la parure personnel inaltérable d'un esprit doux et tranquille. On ne s'en sort pas. C'est pas, dans tous ces textes, je le répète, il ne s'agit pas d'une description complète de l'homme, mais d'une accumulation d'une accumulation de termes pour indiquer qu'il s'agit de l'homme tout entier. Bon, je n'insiste pas davantage là-dessus. Et j'arrive au troisième point, Adam a été créé moral. Vous voyez, faites attention, hein, quand je dis ça, je ne dis pas que l'homme est terrestre, plus spirituel, plus moral, plus social, plus culturel. Je dis simplement que l'homme présente ses 5 aspects. Mais ça ne s'additionne pas, parce qu'on pourrait dire que l'homme, dans sa totalité d'être corporel et spirituel, ou d'être terrestre et spirituel, est aussi moral, social, culturel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, parlons un petit peu de morale. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est moral? Eh bien, tout d'abord, cela veut dire que l'homme, à la distinction des animaux, est un être personnel, intelligent et responsable devant Dieu. L'animal n'est pas personnel. Il n'est pas personnel. Il n'est pas intelligent au sens profond du mot intelligent. Ça ne veut pas dire que, je ne dis pas que certains animaux sont sans intelligence. On sait très bien aujourd'hui que le dauphin est intelligent, on sait très bien que le chien est intelligent, on sait très bien que bien des animaux sont intelligents. Mais leur intelligence n'est pas une intelligence discursive. C'est une intelligence instinctive. Tandis que l'homme a une intelligence discursive en ce sens qu'il peut réfléchir à lui-même et à sa situation par rapport à Dieu, par rapport au monde et par rapport à lui-même. L'homme, l'animal ne peut pas. Et surtout, l'homme est responsable devant Dieu. Et c'est cela qui établit l'homme comme être moral. J'ai déjà parlé d'Éphésiens 4, 24 et de Colossiens 3, 10 tout à l'heure. Et nous avons parlé précédemment des attributs communicables de Dieu. Je ne reviens pas là-dessus. Mais l'homme, étant image de Dieu, a profondément quelque chose de la personne de Dieu, d'analogue à la personne de Dieu. Or, la personne de Dieu est une personne sainte. Et ce n'est pas pour rien que Dieu dit « Je suis saint ». Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. Et les hommes, tous les hommes, sont comptables et responsables devant Dieu de leurs péchés. Et là, il faut se souvenir, mais vous prêterez sans dogmatique avec Paul Wells dans la suite, de leurs péchés en Adam, ça c'est le péché originel, parce qu'Adam est notre représentant commun, et de nos péchés personnels. Donc, c'est très important. L'homme est un être moral. Et alors, je vous indique là une piste de réflexion, parce que là, c'est à vous de réfléchir et de pousser ce que je dis aujourd'hui. Mais voyez-vous, la loi de Dieu, la loi morale, bien sûr, elle est révélée dans la Sainte Écriture. Il y a tous les commandements, toutes les ordonnances de Dieu dans la Sainte Écriture. Mais attention, il y a un rapport étroit entre l'être moral de Dieu, la loi de Dieu, et l'homme. Parce que l'homme est image de Dieu. Si bien que la loi de Dieu est en rapport avec le caractère de Dieu. Dieu a un caractère moral. C'est la même chose qu'il dit quand on parle de la sainteté de Dieu. Et on peut dire que le caractère moral de Dieu, la sainteté de Dieu, Dieu s'exprime dans la loi de Dieu. Autrement dit, la loi morale de Dieu ne peut pas changer. Parce qu'elle reflète le caractère de Dieu. Dieu est immuable, la loi morale de Dieu est immuable, parce que la loi morale que Dieu nous révèle est conforme à son caractère. Alors, le caractère de Dieu ne peut pas changer. Dieu est saint, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu, etc. On pourrait énumérer tout un tas de ces traits de caractère de Dieu, et la loi de Dieu fait ça. Et l'homme ayant été créé à l'image de Dieu, l'homme étant créé à l'image de Dieu, a aussi un caractère moral et est appelé aussi à la sainteté. Si bien que, quand Dieu nous dit la loi, sa loi, qu'il nous dit sous la forme « tu feras ceci, tu feras cela, tu seras comme ceci, tu seras comme ça », ou au contraire, quand il nous dit « tu ne seras pas comme ci, tu ne seras pas comme ça », ou « tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça », bon, peu importe que soit sous une forme positive ou négative. Ça n'est pas une loi qui vient plus. Quand il nous dit tu ne seras pas comme ci, tu ne seras pas comme ça, ou tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça. Bon, peu importe que soit sous une forme positive ou négative. ce n'est pas une loi qui vient peser sur nous. Oui, elle vient peser sur nous parce que nous sommes pécheurs. Mais ce n'est pas une loi qui vient pour nous contraindre, pour nous brimer, pour nous opprimer. Mais au contraire, j'ai la loi de Dieu, elle exprime plutôt une délivrance. Une délivrance. Parce que nous sommes faits pour avoir ce caractère moral analogue au caractère moral de Dieu. Nous sommes faits pour vivre selon la sainteté analogue à la sainteté de Dieu. Alors vous voyez, ça c'est un point très important parce qu'il y a des gens qui se figurent que les commandements de Dieu c'est pour nous embêter. Les commandements de Dieu c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous révéler ce que nous devons être si nous devons être des hommes image de Dieu, c'est-à-dire véritablement hommes comme Dieu nous a créés. Donc vous voyez, c'est un point capital, un point très important ça. C'est parce que nous sommes, parce qu'Adam a été créé moral, c'est parce que l'homme a été créé moral, que image, à l'image de Dieu, nous. Alors évidemment, pour Adam, suivre la loi de Dieu avant la chute, c'était pas du tout quelque chose. Au contraire, l'homme était tout à fait libre, parce qu'il pouvait parfaitement suivre la loi morale de Dieu. Là où la catastrophe a commencé, c'est d'après, vous connaissez tout, là j'ai dit ça pour vous faire sourire une minute, vous connaissez la fameuse histoire, quand on dit que, au fond, qu'est-ce que c'est que la chute, hein? La chute, hein? C'est une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. Mais, c'est une manière de. Comme ça, amusant de résumer les choses. En réalité, la pomme, vous savez, poma, ça veut dire fruit, hein. Enfin, peu importe. Ce qui est important de réaliser, c'est que nous ne pouvons plus raisonner sur la morale sans tenir compte de la réalité de la chute. Alors évidemment, maintenant, la loi de Dieu nous gêne. Mais pourquoi est-ce que la loi de Dieu nous gêne? Bien plus. Pourquoi est-ce que la loi de Dieu nous condamne? Et donc pourquoi nous fuyons la loi de Dieu? C'est parce que nous sommes pécheurs, c'est parce qu'il y a eu la chute. Mais au fond, la loi de Dieu exprime ce que nous sommes dans l'intention créatrice de Dieu. La loi de Dieu exprime ce pourquoi nous sommes faits. Et c'est pourquoi le chrétien qui retrouve la communion avec Dieu trouve, selon la parole de Jésus-Christ, que le joug est facile et le fardeau léger. Pour le pécheur, c'est pas seulement un fardeau, c'est un écrasement. Mais pour celui qui a retrouvé la communion avec Dieu, la loi de Dieu, au contraire, c'est une loi de libération. C'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose de léger. C'est vrai, Dieu me dit, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Mais tu seras comme ceci, tu ne seras pas comme cela. Mais je le reçois comme une parole libératrice. Le chrétien reçoit la loi de Dieu comme une. Comme quelque chose de libérateur. Tandis qu'évidemment, le pécheur reçoit la loi de Dieu comme quelque chose de désagréable, d'horrible, qui vient le contraindre, qui pèse sur lui comme un joug insupportable. Quatrième point. Oui, là, hein, je vous indique des pistes, je ne peux pas dire vraiment que je traite comme il le faudrait tous ces points, mais c'est quand même pour que vous sachiez dans quelle direction on peut aller dans la réflexion et dans quelle direction doit aller la philosophie et la théologie chrétienne. L'homme a été créé social. Ça, c'est souligné dès le début de la Torah, vous savez que c'est le verset 18 de Genèse 2, Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors faites attention, hein. On peut entendre cette parole à deux sens. Il y a le sens où il n'est pas bon que l'homme soit seul, bon, et Dieu lui donne une compagne. Mais le sens premier ne m'apparaît pas être comme ça. Bien sûr, c'est pas seulement ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il y ait plutôt d'autres prochains à l'homme. Et alors, bien sûr, c'est très intéressant de voir, vous savez, la Genèse, hein, je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est un livre, le contraire d'un livre naïf, c'est un livre très très bon. Par exemple, Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il fait venir d'abord vers l'homme les animaux.
Et c'est vrai.
Quand quelqu'un qui est seul, imaginez un vieillard qui est seul, et puis qui a un chat, ou qui a un chien, ben, son chat ou son chien, ils sont des compagnons, il est pas seul. Oui, il n'est pas seul, mais il est quand même toujours seul. Parce que les animaux ne peuvent pas combler la solitude de l'homme. Bien sûr, le pauvre vieux veuf qui est content d'avoir son chien, ben, normalement, il devrait être bien plus content d'avoir encore sa compagne. Parce que c'est pas la même chose quand même d'avoir à ses côtés un être humain ou d'avoir un chien ou un chat. Bien sûr, depuis la chute, les êtres humains sont quelquefois tellement épouvantables qu'il y a certains veufs qui sont bien plus contents d'avoir leur chien, leur sac, d'avoir encore leur pain. Mais ça, c'est un autre problème. Ça vient de ce qu'il y a la chute, et alors que, quelquefois, évidemment, les êtres humains ne sont pas les êtres comme il le faudrait. Tandis que le chat, le chien, ben, sont quelquefois, en effet, des compagnons plus aimables à l'homme que l'homme lui-même. Mais Dieu a doué l'homme aussi de paroles pour la communication, tant avec lui, Dieu, qu'avec les autres hommes. Parce que Dieu a doué l'homme de la faculté d'aimer tant lui-même que les autres hommes. Alors, qu'est-ce qui apparaît dès la création? C'est que Dieu va instituer le mariage, la famille, et on peut dire la communauté entre hommes. Alors le péché a corrompu, perverti, souillé ses capacités sociales de l'homme, mais ne les a pas effacées, ne les a pas anéanties. Je pense ici par exemple à Luc 11, 13. Vous savez, c'est là où Jésus indique que même les méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Oh, il y a des exceptions. Il y a des exceptions, moi, vous avez été frappé sans doute comme moi de voir de temps en temps, on apprend des nouvelles abominables sur les traitements odieux que subissent certains enfants. Il y a même des enfants qui sont tués, il n'y a pas d'autre mot, par leurs parents, assommés, tués par leurs parents, il y en a qui sont martyrisés par leurs parents, on a vu des corps d'enfants marqués par des brûlures de cigarettes ou autre. Bon, mais ça c'est dû, bien sûr, à la chute et au péché. Mais enfin, en général, même on a vu des criminels, d'affreux criminels, être au contraire de bons pères ou de bonnes mères de famille. Hein? Et Jésus a raison, c'est vrai que souvent, même des méchants savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Donc, le péché a corrompu et perverti, souillé les capacités sociales. De même, n'est-ce pas, il y a, vous savez qu'il y a un développement prodigieux depuis quelques années, et je dirais, quand on lit Romains 1, on est assez épouvanté par le développement, parce qu'il y a un jugement de Dieu derrière tout ça, il y a un développement terrible de l'homosexualité. Faisons bien attention, hein. L'homosexualité, c'est une chose très précise, très particulière. Moi, j'ai connu par exemple, j'ai connu des couples de même sexe, mais qui n'avaient absolument pas, qui n'étaient absolument pas homosexuels. Ça peut quand même arriver que deux femmes vivent ensemble ou que deux hommes vivent ensemble sans être pour cela du tout homosexuel. Je veux dire, ils vivent ensemble. Pourquoi? Moi, je sais que j'avais une de mes tantes qui était infirmière et qui vivait dans un appartement avec une autre infirmière. Et j'ai bien connu ma tante qui était toujours infirmière. Il n'y avait aucune affaire d'homosexualité. D'ailleurs, il ne faut pas dire que parce que deux personnes de même sexe cohabitent, que ça veut dire que ça forme un couple homosexuel. Que ce soit du côté masculin, que ce soit du côté féminin. Mais si vous voulez, si vous dépassez la perversion homosexuelle, le péché homosexuel, c'est sûr que un couple d'êtres humains témoigne que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. et qu'on a souvent besoin. C'est la même chose. Vous avez eu des moines qui vivaient en solitaire. Mais en général, les moines vivent en communauté. Et là aussi, ça manifeste bien que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Y a des gens qui supportent bien sûr mieux que d'autres la solitude, mais en général, la solitude est quelque chose de poignant, et surtout que vous avez des solitudes terribles. Ma femme est de plus tôt, et elle voit des choses terribles, comme par exemple, elle voit une mère ayant eu plusieurs enfants, et qui est maintenant dans une maison de retraite, ou plus exactement, qui est à l'hôpital, dans un service qui ne reçoit jamais la visite d'un de ses enfants, alors qu'elle a une fille qui habite Aix-en-Provence. Alors, vous voyez ce que peut être la solitude de quelqu'un. C'est pire, presque, je crois qu'il vaut mieux encore la solitude de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, que la solitude que peut éprouver quelqu'un qui a des enfants qui laisse tomber. Alors, c'est vrai que l'homme a été créé social, Adam a été créé social, il doit y avoir un rapport entre les aides, des relations sociales. Alors, il y a des perversions de relations sociales, je vous ai nommé par exemple tout à l'heure l'homosexualité, mais je dirais, si on laisse de côté les perversions, il y a un besoin social de l'homme. L'homme a besoin de n'être pas seul. L'homme a besoin d'avoir des rapports avec les autres humains. Et alors, dans l'exemple de Jésus, on le voit. Vous voyez, prenez simplement l'exemple de Jésus et pensez à plusieurs choses. Jésus est la foule dont il a compassion. Jésus est ses disciples. Jésus est ses apôtres, qu'il appelle ses amis. Vous êtes mes amis, Jean 15:15. Et Jésus est les trois. Parmi ses amis, il a trois amis de prédilection. Pierre, Jacques et Jean. Ceux qui sont avec lui au moment de la transfiguration et qui sont avec lui aussi au moment de Gethsémani. Et même il y a une relation d'amitié encore plus étroite entre Jésus et Jean. Vous savez que Jean est désigné comme le disciple que Jésus est. Alors moi souvent, quand je vois ce texte, ça m'apprend une grande chose. Quand je vois tous ces textes, ça m'apprend une grande chose. C'est que c'est vrai. La Bible ne nous dit absolument pas qu'il faut que nous considérions tous les hommes de la même façon. Parmi les hommes, nous devons aimer tous les hommes, mais on n'aime pas tous les hommes de la même façon. On peut avoir compassion d'une foule, à l'imitation de Jésus, on peut avoir des frères en grand nombre, au sens spirituel, on peut avoir des amis, on peut avoir des amis très proches, on peut même avoir un ami plus intime, comme Jean était l'ami plus intime de Jésus. Jean était plus ami intime de Jésus que Pierre et que Jacques. Et donc, ne nous imaginons pas que parce que nous sommes créés sociaux, cela veut dire que les autres êtres humains doivent être traités sur le même plan. Non. Et il y a diverses formes d'amitié. Vous avez un écrivain anglais, Lewis, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il faut lire de lui comment c'est traduit en français, je ne me souviens plus comment c'est traduit en français. Il a fait des lettres aux démons. Vous voyez pas, je ne me souviens plus le titre en français. Enfin, Lewis est un écrivain chrétien qu'il faut avoir lu. Et alors, il montre dans un de ses livres sur qu'il a intitulé Les quatre formes de l'amour. Ou plus exactement, en anglais, c'est Les quatre amours. Mais il montre très bien, justement, la différence qu'il y a. Il y a l'amour d'amour qu'il peut y avoir dans le mariage entre un homme et une femme, mais il y a l'amour amitié. Il montre les différents modes de l'amour. Et ça, si vous voulez, c'est ce qui m'a amené à décrire, justement, ce que je viens de vous dire sur la diversité des formes d'amour ou d'amitié qu'on peut avoir pour les autres êtres humains. Et enfin, et c'est par là que je termine, il y a le cinquième point, Adam a été créé culturel. Vous vous souvenez, je vous ai parlé, ça c'était la dernière fois, de ces quatre verbes de la Genèse, dominer, cultiver, garder, nommer. Or, qu'est-ce qui est esquissé à travers ces quatre verbes? C'est précisément la tâche culturelle à laquelle l'homme est appelé. Et ça touche à toute la question de notre travail, mais j'ajouterai aussi de nos loisirs. De nos loisirs. Et là aussi, le péché vient bousculer les affaires, vient les abîmer. Par exemple, on le voit très bien, le travail avant la chute, c'est un travail qui n'est pas un fardeau pour l'homme. Et après la chute, il va falloir que l'homme travaille à la sueur de son front. Le travail va devenir chaud. Il faut faire très attention. Il y a une grande différence entre le travail avant la chute et le travail après la chute. Mais normalement, le travail, c'est la participation de l'homme à la tâche culturelle confiée par Dieu à toute l'humanité. L'homme est appelé à tout cela, à dominer la nature, à cultiver, à garder la création, à nommer les créatures, donc, comme je le disais, à entreprendre toutes les formes des sciences et des arts. Il doit manger de tous les arbres du jardin. Dieu offre à l'homme sa création. Et c'est pourquoi, l'homme peut entreprendre tant de choses en tant de domaines, parce que Dieu l'a créé pour cela. Dieu appelle l'homme à une tâche culturelle. Dieu appelle l'homme à un travail dans sa création. Seulement, normalement, ce travail doit être à la gloire de Dieu et aussi au bien des autres hommes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, regardez, prenez un artiste qui a vraiment une vocation artistique. Mettons par exemple un peintre. Voilà un peintre. Eh bien, le peintre, normalement, doit jeter des couleurs sur une toile à la gloire de Dieu et pour réjouir les autres, pour élever les autres, bien souvent, c'est pas ça du tout. D'abord parce que l'artiste ne fait rien pour la gloire de Dieu. Et bien souvent aussi, l'artiste entreprend ses choses sans avoir tellement de soucis du bien des autres. Et sans vouloir... Mais malgré tout, si vous voulez, il faut toujours distinguer, c'est pour ça que les choses sont très complexes, entre tout ce qui vient de l'œuvre de création et du gouvernement de Dieu, et puis tout ce qui vient du péché. Parce que même, il y a des artistes qui peuvent être des révoltés contre Dieu, qui peuvent être des hommes pécheurs, mais cependant, en même temps, ils sont des créatures auxquelles Dieu a conféré des dons. Alors, vous voyez, il faut quand même distinguer, on ne peut jamais dire, classer les choses en tout bien et en tout mal. Parce que, précisément, il y a dans l'œuvre de tout artiste, ce qui vient de Dieu et de la création de Dieu et des dons de Dieu, et puis ce qui s'y mêle de péché. Et alors c'est pour ça que le chrétien doit discerner et il doit se réjouir de ce qui vient de Dieu dans l'œuvre d'un artiste, et en même temps il doit se défier de ce qui vient du péché dans la même œuvre de l'artiste. Mais il n'y a pas seulement l'artiste, il y a les savants, il n'y a pas seulement les artistes et les savants, il y a les artisans, il n'y a pas seulement les artisans, il y a ceux qui tracent des sillons dans les champs pour apporter aux hommes du blé, des céréales, de la nourriture. Il y a ceux qui vont tisser la laine pour que nous puissions être vêtus, etc. Bon, mais tout ça, c'est ce que je mets sous le mot culturel. Donc vous voyez, il se peut qu'il y ait un sixième point à trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il me semble que bibliquement, Adam a été créé terrestre, spirituel, moral, social, culturel. Et donc, le péché vient atteindre tous ces aspects. Mais Jésus-Christ vient aussi nous sauver et nous renouveler en vue de tous ces aspects. C'est-à-dire que si nous sommes revenus à Dieu et si nous vivons en communion avec lui, eh bien, nous saurons vivre en tant que terrestre, que spirituel, que moral, que social et que culturel. Parce que il y a, Jésus-Christ est venu nous apporter la rédemption au sens plein du mot, et que cette rédemption vient toucher tout ce que je viens de décrire sous ces symboles. Alors vous voyez, nous aurons fait un peu rapidement une espèce de description de l'ensemble ontique. Nous aurons parlé d'abord de Dieu, donc de la théologie au sens précis du mot. Nous aurons aussi parlé de la cosmologie, de la création, j'allais dire, subhumaine de Dieu. Et puis nous aurons parlé de l'homme, qui est la créature en image de Dieu, et donc de l'anthropologie. Et comme ça, vous avez un petit aperçu pour terminer ce cours de philosophie sur l'ensemble d'Adam et d'Ève. C'est bien ça le
but. Oui, c'est ça.
Voyez, or, il faut bien voir, c'est très important, parce que bibliquement, on ne peut pas parler des races humaines. C'est une erreur de parler des races humaines. Il n'y a qu'une race humaine. Cette race humaine se différencie. Tandis que si l'on admet le polygénisme, si l'on est fidèle à la Bible, je le répète, on ne peut pas admettre. Le polygénisme, ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir plusieurs humanités différentes. Plusieurs humanités différentes. Parce que à partir du polygénisme, vous avez donc, voilà, des couples sans rapport entre eux, qui donnent naissance à donc des races qui seraient sans rapport entre eux. Tandis que le monogénisme biblique nous montre que bien sûr, il y a pu y avoir, et il y a eu, différenciation entre des races et des nations diverses. Mais il y a un seul genre humain. Tandis que là, au fond, vous n'avez pas, vous pouvez traiter de pas à pas vraiment un seul genre humain. Vous pouvez avoir une coexistence de genres humains différents.